Bonjour Edouard et bonjour Maître Valla.
Bonjour.
Alors en effet, ce projet de loi va être de nouveau étudié par les parlementaires à partir de la fin septembre, projet de loi sur la bioéthique, un projet de loi qui s'annonce explosif puisqu'il y sera notamment question de la procréation médicalement assistée. Mais un sujet a disparu du texte, celui des tests ADN. C'est aujourd'hui interdit en France. Des associations de médecins plaider pourtant en leur faveur pour détecter des maladies héréditaires, des entreprises privées espéraient de leur côté pouvoir commercialiser des tests surtout destinés à connaître ses origines. Alors Thierry Valla, comment jugez-vous la décision du gouvernement de pour l'instant ne pas céder sur ce sujet?
Alors, la France a une position depuis 1994, les premières lois bioéthiques, extrêmement restrictives, à la différence de nos voisins allemands, belges, anglais, qui eux autorisent d'une manière très large les tests ADN, les tests génétiques. La France a pris le parti de garder de manière très très stricte les tests ADN pour des besoins judiciaires, pour des besoins de recherche de personnes décédées, enfin de manière très très limitée, parce que ces données génétiques sont particulièrement sensibles. Elles touchent à notre intime, notre vie privée, et on va dire que aujourd'hui, dans cette nouveau projet de loi bioéthique, on est dans la continuité, une certaine continuité de cet aspect restrictif. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Il ne serait en revanche pas surprenant que des amendements viennent se glisser dans le débat. Et je pense qu'il y aura certainement des députés qui vont tenter de passer par la fenêtre ce qu'ils n'ont pas pu avoir par la porte.
Oui, et d'ailleurs, le rapporteur même de ce projet de loi, Jean-Louis Touraine, qui est par ailleurs professeur de médecine, est favorable à ces tests à vocation médicale ou privée. C'est aussi le cas d'un généticien très connu en France, Jean-Pierre Mandel. Ce sont des voix assez respectables, finalement, qui plaident en faveur de cette ouverture aux tests ADN.
On a un vrai débat qui est tout à fait cohérent, et on peut en discuter. C'est qui, au niveau de la protection de la vie privée, au niveau de la protection des données personnelles, pose une difficulté. C'est comment ces données vont être récoltées, comment elles vont être conservées, qui va y avoir accès. C'est toujours le même débat. Ça touche, je vous le redis, à ce qu'on a de plus intime, nos données de santé. Ça s'inscrit dans un cadre beaucoup plus large du big data des données médicales, puisqu'on en est là-dessus. C'est tellement facile de les pirater. On l'a vu d'ailleurs encore récemment dans des hôpitaux, dans même des sociétés qui font des tests ADN comme MyHeritage s'est fait pirater 92 millions de données il y a pas si longtemps. Donc quelqu'un arrive à mettre la main sur vos données, il connaît tout de vous, il peut faire beaucoup de choses.
Sauf que finalement, c'est peut-être compliqué de maintenir cette interdiction alors que des dizaines et des dizaines de milliers de Français font déjà ces tests ADN, puisque sans être officiellement autorisé en France, eh ben, on peut commander sur Internet
Oui.
un petit kit et puis renvoyer ça dans le pays où est basée la société, par exemple aux États-Unis, et finalement. Eh ben, c'est déjà répandu dans les faits.
C'est très paradoxal parce qu'aujourd'hui, vous voyez de la pub à la télé, vous voyez de la pub dans les journaux, vous commandez en Espagne, en Israël, aux États-Unis, et puis vous avez le retour. Donc les gens ne comprennent pas. D'ailleurs, quand j'ai annoncé que je participais à votre émission ce matin sur la légalité des tests ADN, beaucoup étaient extrêmement surpris en pensant que c'était tout à fait autorisé puisqu'on en faisait la pub.
Sauf que qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui quand on fait un test ADN via ces sociétés?
Une amende de 3 750 euros.
Oui, ça fait beaucoup
C'est le
d'argent.
code pénal, ça fait beaucoup d'argent. Et si vous l'utilisez pour faire une recherche de paternité, alors là, c'est même au-delà, c'est 1 an de prison et puis des amendes encore plus importantes. Donc, on n'a pas le droit d'essayer de trouver en mettant de l'ADN, en prenant un cheveu sur une brosse et de l'envoyer pour essayer de trouver la paternité de quelqu'un.
Mais est-ce que finalement on ne va pas contre le cours des choses et puis aussi contre finalement une liberté individuelle, celle de savoir d'où l'on vient? Vous parliez de test de paternité. Est-ce que c'est pas, on va dire, justifié pour quelqu'un de vouloir savoir quelles sont ses origines?
Alors, les Français sont très schizophrènes par rapport aux données personnelles. Ils sont extrêmement attachés à la vie privée. Après, on s'en aperçoit avec ces tests MyHeritage, ils sont les premiers à les donner au premier venu, en ne sachant pas du tout ce que ça implique, parce que derrière, ces données vont être cédées pour des fins de marketing, pour des fins de d'autres peut-être moins avouables.
Oui, ça peut partir chez des assureurs, par exemple, qui vont regarder quels sont...
Si vous êtes diabétique, si vous avez des risques de maladies génétiques, enfin bon, vous et votre descendance. Donc bien évidemment, tout ça a des fins extrêmement mercantiles. Et donc, c'est toujours pareil, on met sur les réseaux sociaux des données et on voudrait être complètement maître de ces données également. Donc il y a une véritable éducation à faire. Alors pour revenir sur votre question plus précisément, bien sûr que la recherche de notre héritage génétique est important. Après, la fiabilité de ces tests ADN n'est peut-être pas forcément non plus complètement 100% certaine. Moi j'en ai vu plusieurs donc qui étaient quelquefois un petit peu surprenantes au niveau des résultats, mais on ne sait pas. Moi, je suis extrêmement dubitatif par rapport à ça. Si vous voulez faire des tests ADN, il faut vraiment qu'on le fasse dans des cadres extrêmement sécurisés, et c'est pas par des kits à 100 € que ça peut être fait de manière sérieuse.
Alors aujourd'hui, vous le disiez, les tests ADN existent en France, mais exclusivement dans le domaine judiciaire, pour des enquêtes, pour des procédures en justice. Est-ce que c'est pas finalement deux poids deux mesures, c'est-à-dire donner au gouvernement les possibilités d'avoir une base de données sur la population, une base de données génétique, et puis de l'autre côté, dire à la population, ben vous ne pouvez pas le faire.
Alors, le fichier, ce qu'on appelle le FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques, il y a 3 millions de personnes, grosso modo, qui sont fichées, hein, donc c'est lorsque
ça
vous
fait 5%, un peu moins de 5% de la population.
C'est pas anodin. Lorsque vous êtes gardé à vue, ben vous mettez votre ADN, on le prélève, on le conserve, on le détruit ensuite, quelquefois, lorsque, si par exemple, il n'y a pas de suite. Non, ce fichier est important, parce que il permet quand même de retrouver des prédateurs sexuel permet de recouper. On arrive à reprendre des enquêtes relativement anciennes, ce qu'on appelle les cold cases. On l'a vu notamment aux États-Unis assez récemment, avec donc la découverte du tueur au Zodiac qui était à Golden State, qui était complètement inconnu, et puis finalement il s'est fait démasquer par un ADN retrouvé. Donc bien sûr ça sert. Après c'est toujours le problème de la finalité de la conservation et du recueil de la collecte de ces empreintes génétiques. Est-ce qu'on va les garder longtemps? Qui va les avoir accès? Comment on peut demander de se faire des fichiers de ce fichier? Et puis surtout le croisement des fichiers entre eux. On a 100 fichiers de police aujourd'hui. Est-ce qu'on va ficher le fichier TAJ, le fichier FNAEG, le fichier voilà. Donc est-ce qu'on va On arrivera de toute façon, c'est parce que c'est la tendance lourde aujourd'hui, tout sécuritaire, d'avoir des croisements complets de tous les fichiers où on pourra avoir les empreintes biométriques, les empreintes génétiques, les empreintes de tout ce que vous voulez, et finalement on sera complètement fiché dans pas très très longtemps.
Maître Valla, vous parliez de ce cas, de ce cold case des États-Unis où on a retrouvé après 40 ans de recherche le Golden State Killer, un tueur en série qui avait fait plusieurs victimes en Californie. Sauf que là, c'est un bon exemple finalement de comment peut servir les tests grand public, puisque c'est avec le croisement d'un test, d'un fichier grand public et des fichiers de police qu'ils ont retrouvé ce tueur.
C'est vrai, ça a été un peu dévoyé par rapport à la finalité initiale. Bon, maintenant, on ne va pas s'en plaindre. Je pense qu'il faut quand même le faire dans un cadre judiciaire, c'est quand même beaucoup plus sécurisé. Voilà, si le juge intervient, l'autorise, on est quand même dans un domaine plus tellement difficile et tellement ténu par rapport à la vie privée qu'il faut vraiment qu'on ait un contrôle complet de l'autorité. Donc aujourd'hui, c'est le cas. Je pense qu'il faut rester sur cette ligne-là.
Donc il faut rester sur une interdiction aux tests grand public, selon vous?
Moi, en tout cas, c'est mon sentiment profond. Voilà, l'aspect ludique des tests ADN ne me semble pas forcément le plus utile pour...
Et le plus sage possible.
Voilà, il faut vraiment garder les données ADN bien, bien conservées. C'est vraiment votre patrimoine, et dans tous les sens du terme.
Merci beaucoup, Maître Valla. Et donc, on va suivre ce projet de loi bioéthique qui revient devant les députés à partir de la fin septembre. Et donc, il y aura peut-être en effet des amendements sur ces fameux tests ADN.
Il y aura beaucoup de débats.
Et beaucoup de débats sur le sujet. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été notre invité ce matin.